le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l'actualité qui a marqué cette année. Aujourd'hui, on parle des questions de santé avec l'épidémiologiste Marius Gilbert. Comment nous sommes-nous débarrassés des mesures anti-Covid? Notre pays donne-t-il assez de moyens à la prévention? Comment parler de science dans les médias et quelle place pour l'université dans notre société? Je m'appelle Arthur Parzis. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. Variant Omicron, variole du singe, booster d'automne, économie dans les soins de santé. En 2022, Le Soir vous en parlait. Voici les titres de l'année. 19 janvier, la banalisation d'Omicron touche la motivation des Belges à suivre les mesures. 9 avril, coronavirus, pourquoi le variant BA2 pourrait stopper le déconfinement. 20 mai, la variole du singe donne des sueurs froides aux autorités sanitaires. 30 septembre, coronavirus, la Belgique est officiellement entrée dans une nouvelle vague. 13 octobre, comment les soins de santé vont perdre 120 millions. 29 novembre, bronchiolite, grippe et Covid, les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme. Pour en parler avec nous, Marius Gilbert, bonjour.
Bonjour.
On est ici dans votre bureau à l'Université libre de Bruxelles, puisque vous y êtes chercheur en épidémiologie, vous dirigez aussi le laboratoire d'épidémiologie spatiale. On va parler de virus, d'épidémie, mais aussi de science et de votre activité de chroniqueur au soir, puisque vous l'êtes depuis septembre. Et justement, pour revenir sur cette année, on l'a entendu, on l'a commencé en découvrant un nouveau variant, le variant Omicron, mais en même temps, depuis, aucune mesure sanitaire n'a été réimposée. C'est qu'on s'en est pas trop mal sorti cette année quand même.
C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est passé dans une toute autre phase, c'est-à-dire dans une phase de normalisation de cette maladie. Et la maladie n'a pas disparu. Elle continue à infecter, elle continue malheureusement à tuer aussi, mais dans des proportions qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu dans le passé en termes de menaces. Et donc c'est une maladie qui est occupée à rejoindre en fait le cortège des autres maladies infectieuses avec lesquelles on est contraint de vivre d'une certaine manière, mais qui n'a plus le caractère exceptionnel qu'on a connu et qui justifiait aussi le caractère exceptionnel des mesures de prévention de la transmission. Et ça, c'est vraiment lié à deux choses. C'est lié en fait à ce que j'appelle un socle d'immunité qui s'est construit sur les deux dernières années, en fait, et qui a commencé lors de la première campagne de vaccination, puis qui s'est renforcé au travers des rappels de vaccination successifs, mais aussi des vagues d'infection, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont fait à la fois vacciner et infecter, ou des personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner et qui sont fait infecter. Et donc au final, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il y a plus grand monde en Belgique qui n'a été soit vacciné, soit infecté à de multiples reprises. Et c'est ça qui nous amène dans une situation où le même niveau de transmission n'a plus la même dangerosité. Et donc Omicron vraiment a été très très transmissible, il a infecté énormément de monde, mais on l'a vu avec un impact sanitaire qui était beaucoup plus faible que ses prédécesseurs. Et ça, c'est lié au fait que qui a ce socle de protection immunitaire qui nous protège collectivement. Et donc c'est pour ça que même alors qu'on se retrouve aujourd'hui vraiment au cœur de l'hiver, on est dans une situation où des mesures fortes de limitation de la transmission ne se justifient plus.
On a donc un peu le temps de voir venir. On l'a peut-être un peu oublié, mais l'année 2022 a aussi été marquée par l'arrivée de la variole du singe. Le pic du nombre de cas a été atteint au milieu de l'été, début juillet. Depuis, les cas n'ont cessé de diminuer pour atteindre zéro début décembre. On en a beaucoup parlé à l'époque. Est-ce qu'on s'est emballé trop vite ou notre réponse a justement permis de circonscrire rapidement l'épidémie?
Alors la première chose à dire, c'est que c'est pas du tout le même type d'épidémie. On a des mécanismes de transmission qui sont pas du tout les mêmes. Et on le voit bien, les populations qui ont été touchées sont pas les mêmes non plus. Et donc en fait, dès le moment où les messages de prévention touchaient les bonnes personnes et qu'on pouvait un petit peu faire de la prévention au niveau de ces publics-là, l'épidémie, d'une certaine manière, elle s'arrête, parce qu'en fait, assez rapidement, on arrive à limiter les chaînes de transmission. Et la vaccination a aussi aidé cette démarche de prévention. Mais ça nous a aussi un peu rappelé des mauvais souvenirs, parce que rappelez-vous, effectivement, même si maintenant, rétrospectivement, on voit qu'on a pris le contrôle sur cette transmission et que ça s'est éteint, il y a quand même eu un moment ou des patients en Belgique qui étaient à risque ont dû aller se faire vacciner à Lille parce que chez nous, l'accès au vaccin était limité par une définition d'accès qui était très très restrictive, si vous voulez, parce que pour des questions de vaccins disponibles, etc. Et ça nous rappelait un petit peu des mauvais souvenirs, quoi, à ce moment-là. On se disait, mais enfin, est-ce qu'on n'a rien appris? Je pense que ce serait beaucoup trop fort de dire qu'on n'a rien appris, mais c'est vrai qu'il y a ici encore eu un petit retard à l'allumage, je dirais, en matière de réaction. Mais encore une fois, l'enjeu sanitaire pour la population générale n'était pas du tout le même. Mmh.
Fin d'année, certains titres de journaux étaient dédiés à la pression mise sur les hôpitaux par la combinaison d'une épidémie de bronchiolite et la menace de la grippe et du Covid. Les hôpitaux sonnaient l'alarme et les médias en faisaient l'écho. Est-ce que c'est une situation qui est devenue de plus en plus alarmante ou en fait on y est plus sensible, on la voit plus qu'avant?
Alors là, il y a deux facteurs qui se superposent. Le premier, c'est il y a effectivement un effet loupe. Parce que des situations de tension hospitalière dans les périodes hivernales, avec les bronchiolites, avec les grippes, avec les infections respiratoires, ben on en a connu dans le passé. C'est-à-dire qu'effectivement, des services qui étaient pleins ou qui devaient commencer à faire des ajustements pour accueillir tous les patients, c'est quelque chose qu'on a connu avant le Covid. Mais à cela se rajoute un second phénomène qui est que pendant la période Covid, ben les mesures Covid ont protégé d'un certain nombre d'infections. Et en particulier chez les jeunes enfants de la transmission des bronchiolites. Et une des hypothèses, c'est qu'en fait, ben on a eu deux cohortes en une seule. C'est-à-dire au lieu d'avoir, puisqu'en fait c'est une maladie qui touche vraiment les jeunes enfants, ceux qui n'ont pas été infectés au cours de l'année précédente, ben se sont fait vraisemblablement infecter cette année-ci, ce qui a doublé, je dirais, la quantité d'enfants potentiellement infectables, ce qui a mis une pression supplémentaire sur les hôpitaux qui sont amenés à traiter les cas les plus sévères. Donc il y a vraiment deux phénomènes qui se sont sans doute superposés pour cette année-ci, mais c'est vrai que cette tension hospitalière hivernale, elle était déjà préexistante.
En octobre, on parlait aussi du budget des soins de santé pour les prochaines années. Certains patients bénéficieront d'une meilleure prise en charge à l'avenir, mais ce qui a surtout marqué, c'est l'annonce d'économies les deux prochaines années. Le gouvernement parle de sous-utilisation de lignes budgétaires pour 120 millions, par exemple, en 2023. On a senti une réaction vive de la société civile, population, du secteur des soins de santé aussi. Vous, quel a été votre regard sur cet épisode-là?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que la réaction du secteur des soins de santé en particulier, elle est très compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut voir où les investissements vont et où ils ne vont pas. Et c'est vrai que pour les acteurs eux-mêmes, ceux qui ont le plus, je dirais, payé la crise en termes de pénibilité, entendre qu'il va y avoir des réductions sur les budgets alloués à la santé, c'est parfois difficile à entendre, mais c'est pas forcément chez eux que les réductions vont s'opérer. Donc ça, il faut faire un peu une analyse un peu plus fine. Moi, ce qui me frappe surtout autour de cette question budgétaire, c'est la relativement faible part du budget de soins de santé qui va à la prévention. Et on a quand même un grand nombre de maladies dans notre société qui sont des maladies qu'on appelle évitables, dont l'incidence peut être diminuée par la prévention. Et la ministre Montréal rappelait lors d'une conférence il y a quelques mois que la part du budget des soins de santé alloués à la prévention, c'était 7%. Donc on est sur une médecine qui est largement curative et qui est très très peu préventive. Et moi, mon interrogation, c'est de savoir est-ce que si on basculait une partie de ce budget ou bien si simplement on investissait plus dans la prévention sans toucher au budget curatif déjà, est-ce que ça permettrait pas, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, de générer des économies au niveau des traitements qui sont lourds, coûteux, et si on peut prendre les choses un peu plus en amont, on peut peut-être avoir un calcul qui à moyen terme serait intéressant.
Alors on en parle en filigrane depuis le début de cette interview, mais vous partagez aussi vos réflexions deux fois par mois dans Après l'orage, une chronique que vous publiez dans le journal Le Soir, une chronique où vous tentez de détecter les signes du monde d'après. C'est une bonne ou une mauvaise situation, ça, détecteur des signes du monde d'après?
Je pense que la pandémie a transformé beaucoup de choses. Et c'était un peu ça l'ambition de cette chronique, c'est d'essayer de voir au travers du regard qui est le mien, qu'est-ce que cette pandémie avait transformé chez nous, à l'interface, je dirais, entre science et société. Et donc, on va, dans chacune des chroniques, ça va parler toujours un petit peu de science, de société, et il y a toujours, d'une certaine manière, une référence à la pandémie et ce qu'elle a éventuellement transformé chez nous ou ailleurs. Et donc, c'est vraiment un travail, je dirais, un peu dans la durée, si vous voulez, en sortant un peu de cette situation du nez dans le guidon dans laquelle on a été plongé pendant deux ans, mais de voir quelles sont les choses qui se déroulent peut-être un petit peu différemment maintenant du fait qu'on a eu cette expérience-là, qu'on a traversé cette expérience-là, en positif, en négatif, voilà. Donc c'est plutôt une espèce de rôle d'observateur, si vous voulez, de ce que je peux voir dans la société en lien avec la pandémie, à l'interface science-société. Il n'y a pas une semaine où je, enfin, il n'y a pas un jour où je m'interroge pas, si vous voulez, lorsque j'écoute l'actualité ou sur ce qui pourrait éventuellement alimenter cette réflexion. Donc c'est assez riche, c'est assez exigeant parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est une collaboration qui me plaît beaucoup.
Dans ces chroniques, vous expliquez aussi, par exemple, des outils pour pouvoir évaluer la validité d'un discours scientifique. Est-ce qu'on s'est trop longtemps permis de ne faire intervenir la science dans les médias que par intermittence ou dans l'urgence?
Il y a toujours eu de l'information scientifique dans les médias. Ce qui a été peut-être sous-représenté, c'est la manière dont l'expertise scientifique vient informer des décisions. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour un certain nombre d'acteurs. Et la deuxième chose qui est très peu communiquée dans les médias généralistes, c'est la manière dont la science fonctionne. C'est-à-dire qu'on va souvent donner l'accent sur une découverte, on va décrire la découverte, on va parler d'événements de type scientifique, mais c'est assez rare qu'on décrive comment le processus scientifique fonctionne, a abouti à un certain nombre de résultats. Et c'est pour cette raison-là que le grand public n'a pas toujours conscience de la manière dont les savoirs évoluent, dont les savoirs se créent, de l'importance du consensus en science. Et cette méconnaissance du fonctionnement même du processus scientifique amène à ce qu'il n'y ait pas toujours le bon esprit critique qui permette comme ça de décrédibiliser des discours qui en fait n'ont rien de scientifique, si vous voulez, parce qu'ils s'éloignent de ce qu'est la démarche scientifique elle-même. Et donc je pense qu'une meilleure explication par les médias de la manière dont la science fonctionne, dont elle travaille, dont elle acquiert des connaissances, dont des connaissances sont parfois mouvantes, évoluent au fur et à mesure que de nouvelles observations sont acquises, eh bien permettrait au grand public de mieux faire la part des choses dans, je dirais, la quantité d'informations scientifiques qu'ils sont susceptibles de recevoir sur un laps de temps donné.
Vous parlez des médias, vous êtes vice-recteur aussi à la recherche et à la valorisation à l'ULB. Est-ce qu'en dehors des médias, on manque aussi d'une culture de la pensée scientifique? Est-ce qu'on n'éduque pas assez à la science?
Alors ça, c'est vraiment un nouveau défi pour les universités, je pense. Bon, l'université, elle a un certain nombre de missions. Il y a une mission d'enseignement vis-à-vis de ses étudiants. Là, en fait, les professeurs sont toujours des chercheurs. Donc, l'accès pour les étudiants à la recherche, il se fait au travers des cours. L'université, elle a un rôle de production de savoir. Donc, il y a tous les profs, la communauté scientifique, fait de la recherche et donc améliore l'état des connaissances. Mais il y a une troisième mission, je dirais, pour l'université, qui est celle de partager les connaissances avec le reste de la société. Et ça peut se faire par des tas de canaux. Ça peut se faire par des experts qui participent, effectivement, on l'a bien beaucoup vu dans la pandémie, à des émissions de télé, mais il y a aussi des tas de chercheurs qui ont des activités de diffusion des sciences au travers de podcasts, au travers de sites web, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment un rôle, je pense, qui est assez important pour que la société ait une meilleure vision de ce qui se fait dans les universités. Il y a vraiment énormément d'activités qui sont proposées, et c'est quelque chose qu'on va essayer, enfin, en ma qualité de vice-recteur, j'essaye de promouvoir, parce que je pense que c'est vraiment important que la société voit et ait accès à ce qui se fait dans les universités en matière de production de savoir. Et il y a une autre évolution qui est une évolution historique assez récente, qui est toute l'évolution de ce qu'on appelle de la science ouverte, dans laquelle on va associer des chercheurs et des citoyens autour de questions scientifiques. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les citoyens vont pas juste recevoir au travers de la diffusion scientifique un savoir sur certaines recherches, mais vont être impliqués dans certaines recherches, vont avoir la possibilité d'avoir accès à des données brutes, à des données de la publication. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'open science, la science ouverte, et c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir aussi parce que ça participe, je dirais, à une certaine vitalité démocratique, que les citoyens soient au courant de ce qui se fait, de ce qui se sait, que soient informés de l'évolution des savoirs.
Est-ce que le temps de consommation médiatique et le temps d'explication et de recherche scientifique vous paraissent conciliables?
Oui, mais il faut distinguer deux choses. Dans les médias, il y a des contenus qui sont parfois des contenus courts, Il y a parfois des contenus qui sont plus longs aussi, mais qui permettent d'avoir une espèce d'accroche au savoir. Il y a un exemple que je trouve assez parlant, c'est l'événement Ma thèse en 180 secondes, où il y a des chercheurs ou chercheuses qui font une thèse de doctorat, et on leur demande d'expliquer leurs travaux en 3 minutes. C'est extrêmement court, mais ils arrivent parfois à le faire de façon tout à fait remarquable, et ça donne l'envie aux personnes qui ont écouté cet exposé d'en savoir plus. Eh bien, je pense que les médias, c'est un peu le même rôle, même s'il y a des contenus courts, l'enjeu, c'est de donner l'envie d'en savoir plus, de susciter la curiosité, et puis après, d'éventuellement pouvoir aiguiller les personnes dont la curiosité a été aiguillée vers des contenus plus longs, où ils peuvent trouver de quoi nourrir leur curiosité. Donc il y a vraiment, les universités peuvent remplir, je dirais, un petit peu ces deux objectifs. Donc en partenariat avec les médias, c'est vraiment de donner ce point d'accroche. Et puis, dans les lieux de l'université, au travers de conférences, au travers d'expositions, au travers de toute une série de propositions de contenus, de pouvoir donner des éléments pour approfondir pour les citoyens.
Alors, pendant la pandémie de Covid, on vous a vu et on vous a entendu, et vous êtes même parfois aussi apparu comme une figure réconfortante. On a envie de vous demander ce qui vous, au quotidien, dans votre poste à l'ULB, dans vos fonctions de scientifique, comme citoyen, ce qui vous rassure, ce qui vous fait du bien, ce qui même vous donne de l'espoir.
Alors, c'est assez intéressant. Ce qui me frappe, c'est à quel point on est quand même très très fort exposé à des informations négatives. Et c'est lié à un biais dans l'information. C'est-à-dire que l'information positive et graduelle ne se fraye pas tellement un très bon chemin au travers des médias. Et moi, ce qui me rassure et ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a toute une série, par exemple, d'indicateurs à l'échelle du monde, en termes de qualité de vie, de diminution de la pauvreté, d'espérance de vie, etc., qui n'ont fait que s'améliorer au cours des dernières décennies. Et on en parle très peu, parce que c'est des changements qui sont graduels. Et on est toujours exposé aux informations qui sont beaucoup plus immédiates, inquiétantes, ça nous donne une représentation parfois un peu biaisée du monde. Et donc moi, ce qui me rassure, c'est parfois d'aller revoir un certain nombre de données agrégées sur l'état du monde. Alors, si on prend l'état du monde du point de vue environnemental, on a un vrai problème, là, il y a de quoi vraiment déprimer. Mais si on prend l'état du monde du point de vue d'un certain nombre, par exemple, d'accès d'un nombre de plus en plus important à des soins de santé ou à une sortie de l'extrême pauvreté, ben, on est dans une situation qui est nettement meilleure maintenant qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir voir les deux. Parce que si on ne voit pas ce qui va bien, on ne se concentre pas très bien sur les choses qui vont mal. Et donc, il faut vraiment mettre le plus d'énergie possible dans les choses qui vont le moins bien. Et être capable pour ça de voir ce qui fonctionne. Voilà. Donc c'est vraiment ça, là que je trouve, pour l'énergie, de me focaliser sur les choses sur lesquelles il faut agir, c'est de voir que par ailleurs, il y a des choses qui vont mieux.
C'est peut-être une bonne résolution pour l'année 2023. Merci Marie-Gilbert d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous. Partagez-nous, vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain !